Le temps en détention, un atelier à l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Marseille. Katia Kovacic est réalisatrice de documentaires sonores et pas inconnue sur cette antenne où on a eu à plusieurs reprises l'occasion de diffuser son travail. Par ailleurs, elle mène un atelier de création sonore à l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Marseille. On va d'ailleurs, au cours de cette émission, écouter quelques-unes de ses créations. Et puis, on a souhaité aussi accompagner cette diffusion avec une réflexion sur le thème du temps en détention. En fait, on a prévu deux émissions sur cette thématique. Une première émission aujourd'hui et une seconde qui suivra demain à la même heure. Katia Kovacic, bonjour.
Bonjour.
On a choisi pour cette série de deux émissions spéciales une thématique autour du temps en détention et en fait cette thématique elle rejoint la thématique que tu as choisie avec les jeunes détenus pour ces créations sonores. Alors peut-être pour lancer la première diffusion, pourquoi avoir choisi cette thématique sur le temps en détention ?
Donc nous l'avons choisi en groupe, c'est-à-dire avec l'ensemble des enseignants, puisque les ateliers radiophoniques sont menés sur le temps scolaire. Et il leur a semblé que ce thème du temps en détention avant tout, était un thème assez prégnant pour eux et que ça pourrait être aussi pour eux une façon d'extérioriser des tensions que de travailler sur l'expression autour de ce thème.
Au cours de cette émission, donc, l'écoute des réalisations de Katia Kovacic, des enseignants à l'EPM de Marseille et puis des jeunes détenus, mais aussi l'occasion de prolonger cette écoute par une discussion en compagnie de Madame Nathalie Roche, qui est juge des enfants et particulièrement en relation avec l'EPM de Marseille. Bonjour.
Bonjour.
Et puis sur ce plateau aussi, Monsieur Pierre Costi, qui est directeur adjoint de cette EPM de Marseille. Bonjour.
Bonjour.
Tout à l'heure au téléphone, on rejoindra aussi Philippe Combessy, qui est sociologue et auteur notamment d'un ouvrage qui fait référence sur la sociologie des prisons. Tout de suite, je vous propose qu'on écoute un premier extrait sonore. Katia Kovacic, ce premier son, pour le lancer.
Pour le lancer, c'est un travail qui a été fait avec un groupe de jeunes qui sont d'un niveau scolaire d'école et qui ont fait des écritures sur le thème du temps.
Bonjour, en direct du groupe C de l'EPM de Marseille. Nous vous présentons nos pensées du temps en détention. Écoutez nos impressions.
Bonjour, j'habite à la Belle de Mai dans le 3e arrondissement de Marseille. J'ai 17 ans et demi, bientôt 18. J'aime bien le foot, c'est ma passion. Et j'aime un peu la muscule.
Lundi, mardi, mercredi, vendredi.
Je m'appelle Kader, j'ai bientôt 18 ans et je viens de Vitrolles.
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. On a travaillé sur le temps.
Je m'appelle Karim, j'ai 16 ans, j'habite à Toulon et je suis en prison.
Je voudrais vous expliquer le temps de la prison. Le temps, comment ça se passe ici, quand ça va vite, quand ça va lentement.
Bonjour, je m'appelle Youssef, j'habite à Gardanne, j'ai 16 ans et j'aime le foot.
Et j'aimerais vous dire, par exemple, le temps quand il passe vite à l'école, quand on est en scolaire, au foot, c'est-à-dire des fois on est sur le terrain, au gymnase, au parloir, quand on mange, quand on écrit des lettres pour les parents, quand on regarde la télé, quand on est en promenade, quand on est en activité. Après, il y a le temps qui passe lentement. C'est le temps en cellule. Le temps en garde à vue, il passe très lent. Il n'y a rien, tu es dans le noir. Tu fais rien, il n'y a jamais de...
Lundi.
Il n'y a jamais rien, quoi. Si tu es tout seul, ça passe vraiment, vraiment lentement.
Mardi.
Le temps au cachot,
Mercredi.
Le temps au geôle. Le temps dans l'aquarium. Quand entre le scolaire, on a des petites, on va dire, récréations.
Samedi.
Quand on est confiné. Quand on fait des conneries dans l'après, dans le PM. Quand on entend, quand on attend du courrier, ça passe vraiment lentement. Et quand on attend le parloir, on dirait que ça se finit plus.
Mardi. Mardi. Mardi.
Le temps passé en prison, on ne le vit pas. C'est le temps qui ne passe pas. Le temps de dehors passe vite, parce que l'on rit, parce que dans le quartier, on vit. Le temps de dedans, c'est lent, parce qu'on meurt, parce que dans la cellule, on s'ennuie.
Le dimanche, tu ne sors pas de ta cellule. C'est le jour qui passe vraiment le plus lentement ici. Tu sors une heure en promenade. Et après, voilà, tu restes dans ta cellule et c'est vraiment... Tu regardes la télé, tu fais du sport dans ta cellule. Voilà, tu fais tout ce qu'il faut pour passer le temps, tu dors. Plus souvent, c'est tu dors.
Autrefois, hier...
Le temps du bonheur, le temps qui passe lentement.
Lentement.
Nos jours qui défilent autour des choses qu'on a faites et de tout ce qu'on a vécu.
Tout ce qu'on a vécu.
Libre de penser à la liberté.
La liberté.
On finit par y croire un jour.
Un jour.
Comme un souhait exaucé, un rêve qui se réalise enfin. La chute fatale est là, tout près dangereuse.
Tout près, dangereuse.
Le chemin reste long, étroit et sombre, et nous atteint
soudain le cœur. Aujourd'hui, demain, après-demain, avant-hier.
Demain, on ne perdra plus de temps. À traîner au quartier, à rester à ne rien faire, à passer moins de temps au charbon, moins de temps au violon, moins de temps en prison. Moins de temps à voler, moins de temps avec les poulets, moins de temps en cellule, moins de temps à regarder la télé, moins de temps à bâiller, moins de temps à s'ennuyer et moins de temps à glander.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, dimanche, dimanche.
Ici, c'est le temps perdu, même les dimanches, on déteste et on rêve.
Autant de merveilles.
Autant de mensonges.
Autant de la mort.
Autant qui court.
Autant d'aimer.
Autant de la liberté.
Merci de nous avoir écoutés. On a fait ce travail avec Madame Troin, notre prof de l'EPM, et Katia, réalisatrice radio.
On écoutait un premier extrait de ce travail de création mené par Katia Kovacic avec les jeunes de l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Marseille. Peut-être deux toutes petites précisions pour désannoncer ce son. La première, c'est que les prénoms que vous entendez ou les noms que vous entendez ne sont pas les noms réels des détenus, bien entendu. On a souhaité conserver leur anonymat. La deuxième précision que je souhaitais donner aussi, c'est qu'évidemment, ces jeunes, une fois sortis, étaient les bienvenus sur ce plateau pour venir discuter du temps en prison. Mais il est, semble-t-il, assez compliqué, Katia, de les convaincre de venir parler de leur expérience en détention.
Il semblerait que à chaque fois qu'on les a invités, leur venue est difficile. Il semblerait que ce soit parce que une fois sortis, la prison reste derrière.
Et quelque part, on peut bien le comprendre. Premier moment de discussion aujourd'hui, autour du temps de la peine. Un sujet, au fond, relativement récent, tout comme les prisons, dans leur acception moderne. En gros, on pourrait dire que ça remonte au XIXe siècle. Jusqu'à la Révolution française, le temps de la peine, il est arbitraire. Il dépend du seigneur ou du prince qui vous a embastillé et qui vous tiendra en prison le temps qu'il lui plaît. Et d'ailleurs, la prison n'est à ce moment-là pas tellement considérée comme une peine en soi, mais c'est plutôt l'attente d'un jugement ou l'attente d'un châtiment la plupart du temps corporel. À la Révolution française, les choses changent du tout au tout. On construit massivement, on peut dire, des prisons. On conçoit une architecture carcérale et l'emprisonnement, la privation de liberté, devient l'élément central de la répression pénale. Aujourd'hui, on peut imaginer que la loi prévoit donc une quantité de prison, de temps d'emprisonnement correspondant à chacun des délits ou des crimes. Ceci dit, il apparaît quand même que ceux qui appliquent ces jugements, c'est-à-dire les juges, bénéficient d'une certaine latitude d'appréciation du temps de la peine. Alors peut-être, Madame Roche, sur cette marge dont vous disposez pour appliquer une peine, elle est importante ?
Elle est importante de moins en moins. Il y a trois temps de la peine. Il y a la peine encourue, celle à laquelle on peut être condamné, pour laquelle le juge et le tribunal, puisque c'est rarement maintenant un juge seul qui juge, et en tout cas pour les mineurs c'est de plus en plus rare, qui est donc à l'appréciation du tribunal, à l'appréciation de l'ensemble des choses qui vont être amenées par les parties au tribunal. Donc ce temps-là est un temps apprécié. Le temps de la détention provisoire, c'est-à-dire avant d'être jugé, entre le moment où un juge d'instruction met en examen un garçon, parce que ce sont souvent des garçons qui sont incarcérés, et ce temps-là il est limité, c'est-à-dire que la loi prévoit une limite de temps qu'on ne peut pas excéder, mais dans cette limite-là, qui peut aller jusqu'à 2 ans pour les mineurs de plus de 16 ans, le juge apprécie, mais il n'apprécie pas que est-ce que ce garçon mérite de rester en prison ou pas, c'est pas ça qu'il apprécie, c'est son enquête qu'il apprécie. Donc on est sur une deuxième qualité d'appréciation. Et puis après, il y a après la condamnation. La condamnation, elle fixe un temps donné, et après, en ce sein-là, il y a un crédit de réduction de peine qui est attribué automatiquement. Et après, les remises de peine supplémentaires ou les possibilités d'aménagement de peine qui, là, sont à l'appréciation du juge. Mais quand on parle d'appréciation et de l'attitude d'appréciation, c'est toujours en fonction de critères légaux. Donc, on ne peut pas aller au-delà. Et puis, maintenant, il y a des peines automatiques, hein, des peines planchées pour certains délits en phase de jugement. Et la rétention de sûreté qui ne touche pas les mineurs, mais qui permet aussi d'avoir à nouveau ces peines sans temps.
Vous évoquiez à l'instant la détention préventive. Est-ce qu'il vous semble très honnêtement qu'un délai de 2 ans avant de pouvoir être jugé est un délai raisonnable ?
Ça dépend de quoi on parle. Si on parle de la personne, c'est absolument pas raisonnable. Quand on parle de l'enquête et des faits, ça peut être raisonnable en fonction de la qualité des faits. Le problème, c'est qu'on est dans une vision judiciaire, une vision de recherche de vérité qui est encore la quête de la justice française, qui fait que parfois, il est très très long de faire la vérité. Et donc, oui, 2 ans, ça peut être légitime pour faire la vérité sur certaines affaires. Après, que les personnes puissent être incarcérées pendant toute cette période est quelque chose qui, individuellement, personnellement, est effectivement hors de proportion, d'autant plus qu'on parle de mineurs, et que quand on est mineur et qu'on est confronté à 2 ans de provisoire, puisque on parle de provisoire, on est censé être toujours libérable par rapport à la préventive qui est, c'est un petit peu de rab avant la peine à laquelle on va être condamné. Là, ça devient très très lourd parce qu'un homme de 40 ans et un homme de 16 ans peuvent passer tous les deux 2 ans en détention provisoire.
Jusqu'à 2 ans en détention provisoire pour les nécessités de l'enquête, ça on peut bien le comprendre, mais est-ce que ce délai, au fond assez important, il ne tient pas aussi à une forme d'engorgement de la justice française ?
Peut-être, c'est très difficile de le déterminer puisqu'on est sur des réalités très très différentes entre 2 affaires, une pour laquelle 2 ans est totalement insuffisant pour des enquêtes vraiment complexes avec des recherches de personnes en fuite où on n'est pas du tout, la justice même très très efficace ne pourrait pas retrouver une personne qui a fui dans un pays qu'on ne connaît pas. Et puis évidemment une réalité que tout le monde connaît et qui n'est pas une révélation, que de toute manière on n'est peut-être pas en mesure d'être au plus proche des idéaux que la Convention, en tout cas européenne des droits de l'homme, nous a fixés.
Monsieur Costi, vous êtes, je le rappelle, le directeur adjoint de l'EPM de Marseille. Quelle est la proportion des détenus en provisoire dans cet établissement ?
On a une très grande majorité des détenus dans les établissements en général qui reçoivent des mineurs et aussi donc dans le PM de Marseille qui ont le statut de prévenu. C'est-à-dire que ça se situe en fonction des années depuis l'ouverture de l'EPM fin 2007, ça se situe entre 80 et 85% de détenus qui sont donc non condamnés et qui attendent leur jugement.
Parlons un petit peu justement de ces EPM. Ce sont des prisons très récentes. Elles sont apparues dans le courant des années 2000. Et le programme est encore en cours de réalisation, je crois.
Alors en fait, il y avait 7 établissements qui étaient prévus à la création en termes d'EPM. L'idée est née au début 2000, entre 2000 et 2005. Après, les établissements sont aujourd'hui tous ouverts. Et il y en a 6, finalement, pas 7. Et le premier a ouvert de ses portes courant 2007.
L'idée qui présidait à cette création, c'était de sortir les jeunes des prisons classiques, hein, de manière à éviter sans doute une contamination entre les jeunes détenus et puis leurs anciens, leurs grands frères. Et puis probablement aussi de pouvoir donner à ces jeunes détenus des conditions d'éducation, des conditions, des activités plus importantes que celles qu'ils pouvaient avoir dans une grande centrale ou prison classique. Ces établissements pénitentiaires pour mineurs ont été, au moment de leur création, l'objet d'une volée de critiques, il faut bien le dire, assez importante. Aujourd'hui, il semble que le regard qu'on porte sur elles soit un petit peu plus modéré, mesuré, que finalement leur action n'est pas si négative que ça. Peut-être est-ce qu'il est temps aujourd'hui, quelques années après leur ouverture, de faire une première ébauche de bilan, Madame Roche ?
Alors, les critiques et les louanges ne viennent pas des mêmes personnes. Ça serait très bien d'avoir convaincu certaines personnes. C'est toujours des visées politiques. Quand on a une action budgétaire, parce que c'est une action budgétaire très importante hein, pour la création de ces prisons, que ce soit au niveau de l'administration pénitentiaire ou de la protection judiciaire de la jeunesse, il y a toujours des critiques. Le bilan, en tout cas moi, que je peux dresser en tant que juge d'application des peines pour les mineurs, c'est quand même un bilan très positif, puisqu'on fait du temps, justement, de la détention, un temps qui sert. Alors ça sert à réfléchir, donc on s'ennuie effectivement, mais il ne faut pas croire qu'on ne s'ennuie pas à l'extérieur non plus. C'est un temps où on apprend, c'est un temps où on peut retourner à l'école, c'est un temps aussi où il y a des gens pour s'occuper de soi en tant que personne et on n'est pas noyé dans un groupe. Et un temps pour grandir aussi, alors évidemment on pourrait tous espérer que ce ne soit pas le lieu pour grandir, mais c'est un temps qui sert. Et moi en tout cas j'en dresse un bilan plutôt positif, en tout cas à Marseille, dans les conditions de fonctionnement qui existent ici.
Pierre Costi.
Effectivement, c'est un petit peu compliqué de dresser un bilan alors que les EPM ont 3 à 4 ans d'existence. La victoire qu'on nous enlèvera jamais, vous l'avez dit en préambule, c'est la séparation des majeurs. Avant la création des EPM, les mineurs étaient incarcérés systématiquement dans des quartiers mineurs au sein d'une détention majeure qui prévoyait une imperméabilité entre les deux secteurs, mais malgré tout il y a toujours un risque effectivement de contact entre les mineurs et les majeurs dans ce genre de système. Aujourd'hui, ça c'est notre première victoire, on ne nous l'enlèvera jamais, c'est le fait que dans un EPM vous avez que des détenus qui ont entre 13 et 18 ans, donc ça déjà c'est une première victoire. Après, je pense que la deuxième victoire, et on va évoquer surtout le PM de Marseille puisque c'est ce qu'on connaît le mieux, c'est la partie éducative qui est assurée à l'EPM de Marseille par l'éducation nationale. Donc les ateliers qui sont produits aujourd'hui viennent d'un travail en collaboration avec l'éducation nationale puisque les mineurs ont au minimum 18 heures de cours par semaine sans compter l'éducation physique et sportive, que c'est des petits groupes puisque dans les cours scolaires ils sont 6 par groupe et souvent ils redécouvrent l'école. Ils la découvrent ou la redécouvrent et ils y prennent goût dans ces conditions-là parce que ce ne sont plus les cancres, ils sont tous du même niveau puisque c'est des groupes de niveau et ils progressent. Ils progressent et beaucoup de nos mineurs sortent diplômés de l'établissement et ça c'est une deuxième victoire. Évidemment le travail éducatif qui est fait aussi par la PJJ leur apporte beaucoup.
L'ouverture des EPM était destinée à provoquer la fermeture des quartiers des mineurs des prisons. Est-ce que ça a été effectivement le cas ?
Alors, ça a permis la fermeture de deux quartiers mineurs sur la région PACA. Corse, à savoir le quartier mineur d'Aix et le quartier mineur de Toulon, La Farlède. Il subsiste deux autres quartiers mineurs, en l'occurrence à Avignon et à Grasse. C'est trois établissements. Donc, si on comprend l'EPM, ça fait trois établissements qui accueillent des mineurs, plus un petit quartier mineur qui existe aussi en Corse.
Donc, il y a encore quelques-uns de ces quartiers pour mineurs à fermer pour être vraiment cohérent avec cette idée qui avait présidé à la création de ces établissements. Parlons un petit peu, après le temps de la peine, du temps en détention, de son aménagement, de l'emploi du temps des détenus à l'intérieur d'un établissement. Cet emploi du temps, il est extrêmement fixé? Il est chaque jour le même? Ou est-ce qu'il y a une variation? Comment est-il composé?
Alors, il est structuré autour du temps scolaire. Du lundi au vendredi, et à part le mercredi après-midi, on a de l'école toute la journée. Donc c'est ce temps scolaire-là qui est le canevas de l'emploi du temps du mineur. Ce qui permet d'obtenir ce résultat-là, d'avoir au moins 18 heures de cours par semaine par détenu. Après, c'est vrai que ce qui a présidé à la création des EPM, c'est aussi l'observation du détenu, du jeune, dans le groupe. Donc on parle souvent, c'est des choses qu'on entend souvent à l'établissement pour mineurs, de temps collectif, à savoir que en plus de ces temps où ils sont en activité scolaire, où ils sont en sport, où ils sont en activité socioculturelle qui sont, elles, organisées par la protection judiciaire de la jeunesse, vous avez aussi les temps de repas qui sont pris collectivement, ce qui est une originalité dans le système carcéral français, puisque dans les autres établissements qui accueillent notamment des majeurs, le repas est servi en cellule. Donc le détenu, à part son co-détenu, il est seul pour dîner, déjeuner, etc. À l'EPM de Marseille, chaque petite unité qui accueille des mineurs dispose d'un espace pour de réfectoire. C'est-à-dire que les mineurs se retrouvent autour du repas avec deux adultes, un éducateur de la PJJ et un surveillant. Et le but, justement, c'est d'observer leur façon d'être dans le groupe et d'interagir par rapport à ça.
Est-ce que ces règles de vie sont variables d'un établissement à l'autre ou est-ce qu'elles sont fixées par une norme, une réglementation de l'administration pénitentiaire?
Il existe à l'ouverture des quartiers mineurs, on avait un guide méthodologique qui donne les grandes voies, les grands axes de travail autour des établissements pénitentiaires pour mineurs. Mais l'expérience qu'on a de nos collègues qui travaillent par exemple à Lyon, à l'EPM de Lyon ou dans d'autres EPM, c'est que chacun s'est approprié aussi l'emploi du temps ou la façon de fonctionner à la culture de la région parfois ou à sa propre expérience. C'est-à-dire que des choses qui ont raté au début, on les abandonne ou alors parfois on va chercher des bonnes idées chez les collègues et on adapte les choses progressivement en sachant qu'on reste quand même aujourd'hui, en tout cas à l'EPM de Marseille, au bout de 3 ans, on a quand même un rythme de croisière qu'on maintient notamment au niveau de l'emploi du temps scolaire.
Le temps de la peine, c'est aussi le temps de la remise de peine, c'est-à-dire d'une diminution de ce qui avait été la condamnation pour le détenu. Cette remise de peine, selon quelles règles s'opère-t-elle, Madame Roche? Est-ce qu'elle est automatique? Chaque année, on bénéficie de temps de remise si on s'est bien comporté. Est-ce qu'elle est liée à un comportement particulier du détenu dans la prison, détenu modèle? Comment est-ce que ça se passe, la remise de peine?
Il y a deux phases. La première phase, c'est on rentre, on est écroué. C'est-à-dire qu'au moment de la condamnation, il faut qu'on soit condamné. À ce moment-là, il y a l'automaticité du code de procédure pénale qui permet d'avoir des crédits de réduction de peine. On a le droit à tant de jours par mois qui sont cumulables en fonction de si on est en récidive ou pas. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres. Ça, c'est on rentre et ça tombe directement. Sur ces réductions de peine qui sont automatiques, on peut avoir des retraits de crédits de réduction de peine si on a fait des bêtises, si on se comporte mal. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, on peut avoir des remises de peine supplémentaires. Et si on les appelle supplémentaires, c'est donc parce qu'il y a ces premières remises de peine, et là, qui sont à l'appréciation du magistrat. Il y a des commissions d'application des peines qui sont organisées, avec différents membres qui sont fixés par le code de procédure pénale. Et là, il faut avoir fait des efforts sérieux de réadaptation sociale. C'est le terme qui est donné par le code de procédure pénale. Et là, c'est au juge, et à chacun des intervenants qui donne son avis, de dire si on y a des efforts sérieux de réadaptation sociale. Ce qui est donc juste bien se comporter en détention ne suffit pas.
Je crois d'ailleurs qu'en matière de justice pour les mineurs, le juge des enfants, je ne sais pas si on l'appelle toujours comme ça, juge des enfants.
Encore un peu.
Et à la fois le juge d'application des peines.
Tout à fait, c'est le principe du juge unique, hein, qui va être le juge du jeune quand lui sera en danger dans sa famille à certains moments, qui est le juge du garçon qui a fait une bêtise et sur lequel on va enquêter, et qui en même temps, le juge qui le juge et le juge qui le suit.
Est-ce que ça vous semble logique ?
Ben c'est pas vraiment une question de logique, hein, c'est une question d'idéologie qui a présidé à l'ordonnance de 45 et qui a dit que la spécificité des mineurs, c'est qu'ils devaient avoir une prise en charge globale et qu'il n'était pas juste un délinquant ou un être en danger, mais qu'il était une personne et qu'on a besoin de le suivre. Alors avec des aspects négatifs aussi, parce que parfois on dit que ça autorise le juge à être beaucoup plus gentil avec un mineur qu'il connaît bien. Moi j'ai plutôt l'expérience du contraire, parce que quand on a condamné lourdement à une peine de prison importante un garçon, on n'a pas toujours envie de lui accorder une libération conditionnelle. Mais nous sommes des professionnels et on fait en fonction de la loi, donc on essaie de s'arranger. L'avantage, on va dire, des juridictions un peu plus importantes, c'est qu'on a aussi chacun des spécificités qui fait que pour Marseille, un magistrat en particulier va être chargé des remises de peine supplémentaires, pas des aménagements particulièrement, pour pouvoir avoir aussi, on va dire, une égalité entre tous les mineurs détenus et une même jurisprudence pour qu'il n'y ait pas de disproportion entre celui qui connaît bien son juge, celui qui ne le connaît pas, dans un sens ou dans l'autre, et je tiens vraiment à le préciser.
La justice, la même pour tous, hein, c'est quand même le principe du droit français. On va écouter, je vous propose qu'on écoute tout de suite un deuxième extrait sonore du travail réalisé par Katia Kovacic avec les jeunes détenus de l'EPM de Marseille. Katia, ce deuxième son, de quoi s'agit-il ?
Ce deuxième son a été mené avec le groupe de Madame Bougaud autour de l'histoire, de l'actualité et des représentations du futur.
C'est quoi le temps ?
Le temps, c'est les minutes, les heures et les secondes.
Le temps, c'est le déroulement de la vie.
Seconde, minute, heure, semaine, mois, jour...
Et comment on le représente, le temps ?
À une flèche chronologique.
Le temps est représenté par une horloge ou une montre.
Est-ce que le temps a eu un début ? Est-ce qu'il a commencé ?
Le temps a commencé à ma naissance, il n'y a pas de passé.
Oui, le temps a un début, le passé.
Le temps n'a pas de début.
Et alors, comment vous représentez l'origine du monde ?
Je sais pas.
La vie a un début, mais pas le temps. Je sais pas. D'après les scientifiques, c'est une sorte d'alchimie, une fusion.
Big Bang, c'est tout.
Après, je sais pas si c'est vrai.
Il y avait des animaux, Adam et Ève.
C'est quoi le temps a eu un
Mais bien avant, il n'y a pas eu de terre,
et
juste des météorites.
Et alors, les premiers hommes, ça pouvait être comment ?
Comme moi, voilà. Des Cro-Magnons, comme moi, je sais pas. Moi. Et voilà. Des hommes historiques, je sais pas quoi.
Des hommes non civilisés. Préhistoriques, pas de vêtements. Manger cru.
Je les vois comme des hommes.
La date, je la connais pas.
Pour survivre.
Des nomades.
Ils font comme ils peuvent.
Voilà. Pas de domicile fixe.
C'était Adam et Ève, mais.
Je dis ça.
Un atelier mené par le groupe D au centre scolaire de l'EPM de Marseille. Aujourd'hui, mars 2011, nous avons travaillé sur le thème du temps.
Il y a 17 milliards d'années, le Big Bang. Il y a.
Le temps passé, l'actualité et le futur.
Ouais. À 5 millions d'années, l'origine de l'homme.
Voici nos idées.
Le passé.
L'écriture.
1492.
Alors, est-ce que vous pensez que c'est important de connaître l'histoire et les événements du passé qui ont eu lieu avant votre naissance ?
Oui. Pourquoi ? Oui, c'est important pour savoir comment c'est passé avant.
1793, exécution de Louis XVI.
Pour moi, alors, c'est important dans l'histoire parce qu'avant, c'était dur de porter les pierres et tout. Et quand ils ont inventé la rue, c'était facile de les porter jusqu'à où ils voulaient. Voilà, c'était plus facile.
1848, abolition de l'esclavage.
L'abolition de l'esclavage est une date très importante car tout homme a droit d'être libre. Et d'être égaux, tous les uns comme les autres. Et voilà pourquoi je pense que cette date est très importante pour l'homme.
Pour moi, l'abolition de l'esclavage, c'est important parce que, voilà, peut-être que si l'esclavage ne serait pas aboli, il y aura encore des esclaves maintenant, là, à notre époque.
1945, bombe nucléaire à Hiroshima.
En remontant le temps, dans toute l'histoire de l'humanité, dans l'histoire ancienne, est-ce qu'il y a eu des moments qui vous semblent vraiment importants, qui ont fait avancer les hommes ?
Luther King et tout, pour les esclaves.
1954-1962,
guerre d'Algérie et indépendance de la Tunisie.
L'exécution de Louis XVI en 1783, il y avait la Révolution française.
Le discours de Malcolm X.
L'abolition de l'esclavage.
Pour moi, un événement important, c'est l'indépendance de la Tunisie. En 1956, parce que chaque pays doit avoir ses droits et sa liberté.
1975, indépendance des Comores.
L'indépendance des Comores, c'est bien, parce qu'ils peuvent voler de leur propre aile maintenant, ils n'ont pas besoin d'aide. Et c'est une fierté aussi, d'être soi-même, pas de vivre derrière les gens.
Pour moi, l'événement important, c'est la guerre d'Algérie. Oui, c'est vrai, il y avait des Harkis, mais il y avait aussi des Arabes qui se battaient pour leur pays.
1968, assassinat de Martin Luther King.
Pour moi, Martin Luther King, c'est un homme important. Parce qu'il a risqué sa vie pour défendre les Noirs et tout. Il a risqué sa vie pour nous et pour les Noirs. Voilà.
Le présent.
Alors maintenant, dans le présent, dans l'actualité du monde, est-ce qu'il y a des événements qui vous semblent vraiment importants dans la vie du monde d'aujourd'hui?
Oui, l'élection de Obama, pour la première fois, il y a un président noir. Parce que dans toute l'histoire, il n'y a jamais eu un président noir. C'est bien. Parce qu'avant, les Noirs n'avaient pas le droit de vote, ils n'avaient rien et tout. Et comment voilà, maintenant Obama...
Une femme qui est devenue présidente au Brésil, truc est rare, ça peut avancer. On voit comme un président noir, une femme présidente. Ça évolue, on voit que ça évolue.
Moi, c'est la révolution en Tunisie. Parce que pendant 30 ans, il gouverne son pays. Après, il part comme un voleur. Donc, ça change.
Comme en France, un président reste 5 ans là-bas, le président il reste 30 ans et il vole le pays. Il vole le pays, il vole les récoltes, tout ce qui revient au peuple.
C'est pour ça que les pays algériens sont pauvres, les pays d'Afrique, tout ça. Parce que c'est des voleurs.
Le président, il part les mains pleines et.
Le peuple qui a pris le pouvoir maintenant. C'est pas la dictature, comme
ouais.
Voilà, c'est le peuple maintenant qui a le pouvoir.
Comme il dit,
ça change, mais voilà.
Comme il dit la raison, c'est le peuple qu'ils sont révoltés maintenant, ils en ont marre. Ils veulent montrer que voilà. Qu'ils peuvent faire des choses, que c'est pas que le président qui peut commander. Que voilà, en ce moment que le président de la Libye commence à faire la guerre au peuple. C'est pas trop.
C'est
pas trop bien, voilà, ça fait pas. C'est un guiri.
Ben de sang.
Il y aura plein de morts comme en Égypte. Mais le peuple aura raison du président. Il faut qu'ils avancent, ils ont raison. S'ils veulent avancer, s'ils veulent devenir un pays riche et tout, comme ça et tout, ben, il faut qu'ils continuent de la révolution.
Ouais, mais pas partout.
Ils ont raison.
Moi,
ça peut être un tournant.
Ça sert à rien de faire la guerre, je sais pas, moi. Il va pas laisser sa richesse comme ça.
Je sais pas, la France, ils nous aident pas en plus. Ni la France, ni l'Amérique, ils sont là que pour les intérêts. Jamais ils aident quand il y a des problèmes comme ça et tout.
Il va pas partir, Kadhafi. Parce qu'il l'a dit lui-même. Vous faites la guerre en Tunisie, en Égypte, où le président il sort. Ah, moi ça va pas marcher, ça il a dit. Donc il va rester.
Le futur.
Et est-ce que vous arrivez à vous projeter dans le futur quand vous êtes ici?
Non. Parce qu'on passe pas au futur quand on est ici, on passe à.
Quand
on va sortir, voilà. Quand on va sortir, on passe pas au futur.
Je pense à la sortie. Et après, je penserai à mon futur. Peut-être faire un projet, mais ça sert à rien, tu es enfermé quand même.
Projet de sortie.
Et quand vous serez très vieux, vous vous imaginez?
Moi, je m'imagine bien avec des petits-enfants, des enfants qui ont un beau travail, qui me donnent de l'argent en plus de ma retraite, et des beaux petits-enfants qui viennent voir leur grand-père tous les jours. Et voilà. Ni en France, ni au Comores.
Où?
Aux États-Unis.
Moi, j'imagine pas. Bon.
C'est impossible, tu vis, frère.
90 ans.
J'ai travaillé. Il vivra un pays avec ma femme, voilà.
Moi, deux filles, deux garçons, deux pour la vaisselle, pour le ménage, tout ce qui est ménage, et deux pour le sport.
Moi, je veux que des garçons, équipe de foot. Je veux une belle femme,
La richesse, la liberté. La liberté de ne plus retourner en prison. J'imagine d'être chauffeur routier.
Ah, moi, électricien. Moi, je vais à l'école encore jusqu'à là.
Je sais pas, j'aime bien conduire.
Dans les années 90, on nous disait qu'en 2000, les voitures vont voler. Pourtant, ils avancent même pas. Alors, j'imagine pas dans 30 ans, je sais pas. J'espère que ce sera un monde parfait où il n'y a pas de... Tout le monde gagne sa vie honnêtement. Des présidents honnêtes qui escroquent pas leur pays, surtout. Ce sera plus développé en Afrique, ils vont bien vivre.
Et alors, est-ce que voilà. Le temps aura une fin? Est-ce que vous pensez qu'un jour il y aura une fin du temps?
Oui, moi je pense pas. Que le soleil va cramer.
Le Big Bang, encore une fois. On vit le jour, j'ai remarqué que les gens sont pleins de rêves ou d'imagination.
Dans 5 milliards d'années, il n'y aura plus de terre.
Il faut vivre comme tu vis, jour le jour, dans le monde où tu es.
Le soleil va se rapprocher de la terre, il va la cramer, frère.
Et alors, est-ce que le temps aura une fin?
Est-ce que vous avez plus de terre, plus de vie?
Il y a une fin. S'il y a un début, il y a une fin. Que le calendrier des Incas, là, je ne sais pas.
Les scientifiques racontent des sottises, tout simplement. C'est pas eux qui décident, ils sont au courant de rien, ils ne peuvent pas savoir quand la terre va exploser, etc.
Et alors, est-ce que le temps aura une fin? Est-ce que...
Cet atelier a été mené par le groupe D, avec Madame Bougot, professeure de français, et réalisé par Katia Kovacic. On espère que ça vous a plu. À bientôt, la vie continue.
La vie continue sur les 3-8 avec cette première émission spéciale consacrée à l'établissement pénitentiaire de Marseille et au travail que réalise Katia Kovacic avec les jeunes détenus. On entendait la façon dont il percevait l'histoire et éventuellement dont il se projetait dans le futur. Un futur, on se marie, on a des enfants, les garçons, les filles, c'est pas pareil. C'est un univers un peu sexiste quand même, la prison.
Un univers sexiste. Alors le PM de Marseille, on n'a que des garçons. Il était prévu à l'origine une unité où on devait accueillir des filles pour des raisons que je ne vais pas expliquer en détail ici. Finalement, on n'en reçoit pas. Sexiste, c'est difficile à dire. Je pense que le milieu pénitentiaire est sexiste un petit peu naturellement, enfin culturellement, historiquement, puisque c'est quand même les garçons qui vont le plus en prison. Et garçons majeurs ou mineurs. Hein. Et c'est quand même assez récent qu'on a du personnel aussi féminin. C'est-à-dire qu'il y a, il y a peu de temps, c'était vraiment des hommes gardés, surveillés par des hommes. Aujourd'hui, des femmes sont devenues surveillantes. Et je pense que c'est quelque chose de très intéressant, justement, pour faire évoluer les mentalités de tous les côtés. Hein. Donc c'est, je pense que c'est un acquis aujourd'hui et que ça fait évoluer aussi la culture pénitentiaire.
Alors les garçons sont majoritaires en prison, c'est une société donc essentiellement masculine. À propos de la sociologie des prisons, on a le plaisir d'avoir Philippe Combessy au téléphone. Philippe, bonjour. Vous êtes l'auteur, je le rappelle, d'un ouvrage qui est intitulé « Sociologie de la prison » qui est publié chez Découverte, et puis un autre ouvrage un petit peu antérieur « Prison des villes et des campagnes ». C'est aux éditions de l'Atelier et c'était publié en 1996. Alors, sur cette société carcérale, on vient de voir qu'elle était essentiellement composée de garçons. Est-ce qu'il vous semble que cette société des prisons a évolué au cours des âges? Quelle serait l'évolution sociologique des prisons au fond?
Sur cette première question, en France notamment, la prison est en train d'être de plus en plus un type d'établissement où on enferme les hommes. Alors, on enfermait à peu près 80% d'hommes et 20% de femmes au 19e siècle, et petit à petit, c'est de plus en plus des hommes qu'on enferme. Actuellement, on doit être à 96-97% d'hommes pour 3-4% de femmes seulement qu'on enferme, hein, pour cette question. Hein. Voilà. Et on les enferme, c'est pour la question sexiste, on les enferme séparément et de façon assez drastique depuis 1831. Hein, bon, la prison, on lui demande de faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'elle a du mal à faire. En l'occurrence, séparer les hommes et les femmes, plutôt on y arrive assez bien.
Alors, on évoquait que le sujet de cette première discussion, c'est autour du temps de la peine, mais un temps de la peine qui est aussi le temps de l'enfermement. Alors, est-ce que temps de la peine et temps d'enfermement, c'est la même chose? Pas tout à fait. Tout à l'heure, avec Madame Roche, on évoquait la proportion non négligeable des détenus en préventive dans les prisons. Quel distinguo vous faites, vous, entre temps de la peine et temps de l'enfermement, Philippe Combessier?
Il me semble effectivement important de le préciser, en particulier pour les jeunes, parce que quand on confond temps de la peine et temps de l'enfermement, on pense à des personnes incarcérées pour de très très longues durées. C'est certain que quelqu'un qui est incarcéré pour 20 ans, voire réclusion criminelle à perpétuité avec une durée incompressible, là effectivement on a une proportion très importante du temps d'enfermement qui correspond à un temps de peine. Mais ça correspond rarement à la situation des personnes jeunes incarcérées. Les personnes jeunes incarcérées sont plutôt incarcérées pour des durées de quelques mois. Et à ce moment-là, bien souvent, c'est une incarcération qui se fait peu de temps ou juste après l'arrestation et avant le procès. Et donc il y aura une proportion importante du temps d'incarcération où la personne ne sera pas en train de purger une peine.
Alors j'évoquais tout à l'heure un ouvrage dont vous êtes l'auteur, Prison des villes et des campagnes, un ouvrage dans lequel vous développez notamment l'idée que la prison certes est un lieu fermé, mais que c'est aussi un lieu qui est en relation avec son environnement, en relation avec l'extérieur. Est-ce qu'il vous semble que cette relation avec l'extérieur, la possibilité pour des intervenants de rentrer dans la prison et d'y développer des activités, la possibilité peut-être parfois pour les détenus de pouvoir sortir temporairement de cette prison, est-ce qu'il vous semble que cette relation entre l'intérieur et l'extérieur est de plus en plus poreuse ou bien le contraire, Philippe Combessier?
En fait, ça va beaucoup dépendre de l'emplacement où sont implantés les établissements pénitentiaires. Quand l'établissement pénitentiaire est implanté à un endroit en pleine ville, dans une grande ville, là où il va y avoir éventuellement des étudiants du Génépi, éventuellement des beaucoup de bénévolats, ça va pouvoir entraîner un développement d'une certaine ouverture de l'établissement du fait que maintenant on transporte de moins en moins les personnes incarcérées par les transports en commun en train et de plus en plus par des autoroutes, on implante certains établissements pénitentiaires de plus en plus dans des endroits excentrés et qui sont plus accessibles par les transports en commun, ce qui rend beaucoup plus difficile, on pourrait dire, l'ouverture des prisons, parce que les bénévoles n'ont pas forcément, les familles de détenus n'ont pas forcément, et même pour le personnel pénitentiaire ou affecté à l'établissement, cet isolement de certains nouveaux établissements qu'on met de façon plus excentrée rend plus difficile cette ouverture vers l'extérieur. Donc il y a vraiment une grande disparité. Il y a à peu près 200 établissements pénitentiaires en France, et il y a une grande disparité de possibilités de cette ouverture des prisons vers l'extérieur.
Une grande disparité des établissements anciens, voire même très anciens, voire même obsolètes et désuets, et puis des établissements modernes qu'on penserait beaucoup plus vivables, on va dire. Sauf que parfois, ces établissements modernes, ils font un peu l'économie du personnel au profit de la technologie, de la surveillance, de caméras. Alors peut-être, Pierre Costi, sur ces nouveaux établissements créés, est-ce qu'ils laissent aux gardiens suffisamment de temps pour pouvoir être en relation avec les détenus, pour être présent la nuit si un détenu ne va pas bien, quitte d'ailleurs à ce qu'il tape à la porte et qu'il vous dérange, qu'il vous embête, mais au moins il embête une personne et il n'est pas juste livré à l'œil d'une caméra. Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore suffisamment de gardiens dans ces établissements? Pierre Costi.
Alors par rapport à la modernité des établissements et les conséquences néfastes que ça peut avoir, il faut savoir que la modernité a aussi un avantage, c'est que par exemple à l'EPM de Marseille, c'est le cas, on a l'interphonie dans toutes les cellules. C'est-à-dire qu'un détenu qui veut se faire entendre en pleine nuit, il n'a pas besoin de taper à la porte, il suffit qu'il actionne un bouton et il aura automatiquement une réponse humaine, puisque au bout du fil, il y aura un surveillant. Donc la modernité a aussi des avantages. Il faut savoir aussi que vous n'avez pas en France de caméras dans les cellules. Hein. Les caméras que vous avez, elles sont simplement pour, en général, contrôler les axes, où les détenus ont des mouvements, ou alors les courtes promenades. Et c'est plus pour assurer la sécurité, ou aussi éventuellement permettre à des enquêtes en cas de rixe dans une courte promenade entre des détenus. Ça permet aussi à des enquêtes d'aboutir, d'avoir des enregistrements vidéo. C'est pas simplement remplacer un humain par une caméra. Après, moi, je vais parler de ce que je connais. Je pense que, en l'occurrence, l'EPM est un des établissements les plus modernes aujourd'hui de France, puisqu'ils existent depuis 3 à 4 ans. On n'a jamais eu autant d'humanité dans ces établissements-là que sans doute dans les autres, dans les établissements plus anciens, je veux dire. Et c'est aussi la particularité des établissements pour mineurs, c'est que justement l'encadrement humain est très 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 conséquent. Aujourd'hui, dans une journée, un détenu peut voir 4 à 5 personnes différentes pour régler la plupart des problèmes qu'il peut rencontrer.
Le temps de la peine est l'âge de celui ou celle à qui on applique cette peine. Il faut bien poser cette question de l'âge à partir duquel on peut enfermer quelqu'un. La loi dit en France que c'est à partir de 13 ans. Philippe Combessy, est-ce qu'il vous semble que cet âge de 13 ans, âge limite à partir duquel un enfant ou un adolescent peut être enfermé, est-ce que cet âge vous semble logique, vous semble cohérent? Philippe Combessy.
Mal à vous répondre parce que je n'ai pas spécialement travaillé sur la question des enfermements de jeunes. J'ai rencontré plusieurs mineurs incarcérés, en particulier dans le cadre d'une enquête sur les pauvretés en prison, et où dans les différents établissements où je suis passé, où étaient enfermés des mineurs, on nous a dit que c'était une question importante, en particulier pour les jeunes. J'avais rencontré un jeune de 14 ans, puis plusieurs entre 16 et 18 ans. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'effectivement 13 ans c'est jeune. Dans d'autres pays d'Europe, j'allais dire malheureusement, c'est encore plus jeune, puisque dans certains pays, on peut enfermer à partir de l'âge de 10 ans. Je crois que ma réflexion par rapport à l'enfermement des mineurs, moi qui connais plus la question de l'enfermement des majeurs, presque je rêverais la justice pénale des jeunes majeurs ressemble à ce qu'était actuellement la justice pénale des jeunes mineurs, parce que je crois quand même que pour les jeunes mineurs, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour essayer de trouver d'autres solutions que l'enfermement, en tout cas des efforts qui ne sont pas faits, mais parce que les dispositifs réglementaires ne le préconisent pas. Mais pour les jeunes majeurs, je pense que passé 18 ans, on faisait de la même façon qu'on le fait pour les mineurs une politique qui essaye d'éviter l'enfermement, sauf dans un cas, mais beaucoup plus limité de cas, ça se passerait peut-être plutôt mieux dans les établissements pénitentiaires pour majeurs.
Alors, Nathalie Roche, peut-être sur un rebond sur ce que vient d'évoquer à l'instant Philippe Combessy, sur ce gros gap entre le traitement qui est réservé aux jeunes mineurs et celui qui est réservé aux jeunes majeurs.
Alors, il y a une spécificité hein, pour les jeunes majeurs, une législation qui est un peu différente, qui demande, en tout cas dans le temps d'incarcération, une incarcération différenciée des autres majeurs. Il est évident, enfin moi c'est ma première réflexion, c'est de se dire oui, ce temps de détention des mineurs devrait être le même pour les majeurs, puisque les objectifs sont les mêmes, hein, la réinsertion, la réadaptation. C'est ça qu'on demande à la peine, aussi pour les majeurs, c'est pas le cas. Et bon, moi, la réflexion que je peux avoir, c'est que le projet de loi en préparation, pour l'instant, préférerait faire le contraire, en fait. C'est appliquer ce qui existe aux jeunes majeurs, aux mineurs. Donc après, je laisse à chacun la réflexion sur cette évolution.
Et sur cet âge limite de 13 ans, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez déjà vous-même été amené à avoir un jugement à l'égard d'un jeune prévenu de cet âge?
Alors de cet âge non, un peu plus tard, puisque nous on arrive à la phase de jugement, et pour qu'un mineur soit incarcéré à 13 ans en provisoire, il faut qu'il ait commis un crime, donc c'est le juge d'instruction qui s'en occupe, mais enfin en tout cas ça m'est arrivé. J'ai pas d'opinion à avoir là-dessus, c'est un échec social de mettre un garçon de 13 ans en prison, Après, est-ce qu'on a d'autres solutions? Mais même, est-ce qu'on peut en imaginer d'autres? Qu'on n'en ait pas à disposition, qu'on parle du problème de budget et autres, on peut, mais aussi, mais est-ce qu'on peut concevoir quoi faire d'un enfant qui est complètement déstructuré, qui n'a pas sa place en hôpital psychiatrique et qui n'a pas sa place non plus dans sa famille, pour des raisons là qui sont indépendantes de la société? Qu'est-ce qu'on en fait? Mais ça, c'est un problème de conception, pas seulement de budget.
Est-ce que des structures éducatives, à ce moment-là, ne seraient pas mieux à même de pouvoir s'occuper de ces enfants déstructurés, désocialisés, plutôt qu'une structure qui est quand même axée sur la répression, même si l'éducation y a sa place?
Faut pas se mentir, hein, les CEF, centres éducatifs fermés, sont effectivement des foyers, mais sont aussi des instruments de répression. C'est utilisé par des juges dans le cadre de la condamnation, donc et du contrôle judiciaire. Donc c'est une réalité, il faut pas se mentir, il faut pas se cacher derrière son petit doigt, mais en tout cas... on pourrait imaginer... Enfin, disons qu'il faut essayer beaucoup, beaucoup de choses avant de savoir ce qui peut marcher. Donc, le rôle du juge et des magistrats en général, c'est d'essayer de voir combien de fois on essaye avant que ça marche. Et qu'avec certains, vu un certain niveau de dangerosité, on ne va pas essayer 50 fois. Ce qui est dommage, hein, mais on ne peut pas toujours se permettre... C'est l'équilibre entre les deux qui est difficile.
Pierre Costi.
Il arrive aussi qu'on ait des mineurs, ça nous surprend assez, qui préfèrent être à l'EPM qu'en foyer. Alors, c'est peut-être aussi parce qu'ils ont conscience du cadre plus rigide qu'offre l'EPM et qu'ils ont aussi la conscience d'avoir besoin d'un cadre extrêmement fixe. Et ça nous arrive effectivement que des mineurs nous disent « je préfère être ici qu'en foyer » et refusent aussi parfois des propositions de la protection judiciaire de la jeunesse d'alternative à l'incarcération en contrepartie d'accéder à un foyer, d'aller dans un foyer, qu'ils le refusent justement parce qu'ils préfèrent finir leur temps à l'EPM compte tenu du cadre qu'ils leur aient proposé.
Est-ce que finalement, parce que là il s'agit d'écarter le jeune mineur délinquant d'un environnement qui pourrait être favorable à la continuation de sa délinquance, peut-être des amitiés autour de lui, etc. Mais est-ce que d'autres méthodes alternatives à la prison, alternatives à l'enfermement et même au centre éducatif fermé ne pourraient pas être imaginées? On parle de bracelets électroniques, enfin on peut contrôler aussi la présence de quelqu'un dans un lieu déterminé, dans un quartier d'une ville ou dans une ville, autrement que en l'enfermant. Est-ce que l'hypothèse de la prison zéro pour les mineurs vous semble utopique ou peut-être quelque chose vers quoi on devrait aller, Madame Roche?
Je ne peux pas me prononcer, même personnellement, je ne sais pas si j'y arriverai. En tout cas, que ça soit un objectif, moi je trouve ça totalement légitime. Le problème, c'est quel sacrifice la société fait pour arriver à cet objectif. Aujourd'hui, on est prêt à faire très peu de sacrifices pour cet objectif-là. Donc, c'est pas du tout la tendance. Après, ça sera toujours un sacrifice, parce qu'il y aura toujours des dommages collatéraux pour la société, mais aussi pour les mineurs. Parce que dire pour moi, un bracelet électronique, c'est une alternative au contrôle, c'est un contrôle judiciaire différent, mais il n'y a aucun élément de réinsertion ou de réadaptation. Donc, on reste dans son milieu. Il faut être réaliste, hein, les structures familiales des garçons qui sont à l'EPM sont souvent très douloureuses pour eux et pour leur évolution. Donc, croire que c'est en les laissant dans leur milieu qu'ils vont avancer, c'est vrai pour ni pour tout le monde, ni pour quelques-uns.
Philippe Combessy, cette hypothèse peut-être utopique de la prison zéro, qu'est-ce que ça vous évoque?
Écoutez, actuellement, les quelques tentatives qui ont été faites de réflexion sur l'abolition de la prison, ce sont, je pense par exemple aux AICOPA, International Conference on Prison Abolition, en quelques années se sont très très rapidement rendus compte, ont acquis la conviction que l'enfermement carcéral était fortement lié au système de répression pénale. Et à ce moment-là, ils se sont dit que si on devait abolir l'enfermement carcéral, il fallait en même temps supprimer la justice pénale pour la remplacer par un traitement par la justice civile. Alors qui peut être, les groupes de réflexion qu'on trouve en Nouvelle-Zélande, en Australie, quelquefois en Amérique du Nord, autour de ces questions-là, voient un lien très fort entre la répression pénale et l'enfermement carcéral. Donc la question, c'est est-ce que un traitement de justice civile peut permettre de vivre dans la société contemporaine. Ça peut certainement traiter un certain nombre d'infractions. On se rend compte que peut-être pour certains types de comportements, la société a besoin de justice pénale.
pénale. Alors peut-être qu'on pourrait faire traiter par une justice civile d'autres, davantage de comportements troublant l'ordre social.
Distinction par Philippe Combessy entre justice civile et justice pénale. On arrive au terme de cette émission. Peut-être Pierre Costi, je ne vous demande pas si vous êtes favorable à la prison zéro, parce que ça serait pour vous le chômage.
Mais voilà, j'allais dire tout à l'heure, j'avais préparé ma réponse, je m'étais dit j'ai un instinct de survie qui me pousse à dire que la prison est indispensable. Non, après, elle peut évoluer en tout cas pour être meilleure, pour avoir un meilleur, des résultats meilleurs en termes de réinsertion, etc., etc., ça c'est sûr. Après, je pense que personnellement, l'enfermement de certains individus est à un moment donné indispensable, ne serait-ce que pour aussi satisfaire l'opinion publique d'une certaine façon. Il y a aussi ça qui quand même nous pousse à légiférer et à aller dans ce sens-là.
Merci en tout cas à vous de votre présence sur ce plateau. Pierre Costi, directeur adjoint de l'EPM de Marseille, Nathalie Roche et juge des enfants et en relation avec l'EPM, et Philippe Combessy que nous avons eu au téléphone, et sociologue. Merci à Katia Kovacic pour les documentaires qu'elle nous a donné à entendre. Bonne continuation pour ces ateliers. Et puis on se retrouve demain sur l'antenne des 3-8 à 10h pour la seconde émission spéciale autour du temps en détention, un atelier à l'EPM de Marseille. À la technique, Sébastien Gély.